D'ici mai, ici Guy Simard, voici les nouvelles. Le président américain Donald Trump a affirmé aujourd'hui qu'il était peu probable qu'il appelle le premier ministre canadien gouverneur, comme il l'a fait avec Justin Trudeau. Donald Trump a déclaré aux journalistes avoir suivi l'élection de Mark Carney de très près, ajoutant que le nouveau premier ministre s'était montré remarquable lors des débats. Le président a ajouté qu'il appréciait Mark Carney, qu'ils avaient eu une excellente réunion aujourd'hui et qu'il croit que leur relation sera très solide. Or, après leur discussion dans le bureau ovale, le premier ministre canadien a dit en conférence de presse que le processus de négociation était bien parti. Il a souligné que les enjeux sont complexes, mais s'est montré optimiste pour la suite des pourparlers.
Ce sont des négociations très complexes. Il y a beaucoup d'aspects. Mais on a fait de progrès. Mais toujours, dans les négociations commerciales, il y a un processus et le fin. Et pas nécessairement de progrès qui est apparent pendant les négociations.
François Legault admet qu'il n'a aucune idée du coût total du projet de reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il compte pourtant lancer la phase préparatoire du projet dès cette année. Louis Lacroix.
Questionné par l'opposition, François Legault indique que l'évaluation du chantier HMR n'est pas complétée.
Il y a des évaluations qui sont encore en cours. On sait que ça va être des milliards de dollars.
Le premier ministre ajoute qu'on va commencer par la première phase.
D'ici le 31 mars 2026, on va déplacer puis faire le nouveau stationnement.
Une réponse qui a fait sursauter le chef de l'opposition, Marc Tanguay.
Madame la Présidente, ce que vient d'affirmer le premier ministre, dans le fond, là, c'est qu'il a trouvé de l'argent pour le stationnement uniquement.
François Legault promet qu'il y aura bel et bien de l'argent pour la suite.
Par la suite, on parle d'un projet de milliards de dollars qui sera financé au fur et à mesure à l'intérieur du PQI.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Une entente de principe est intervenue entre Québec et ses 13 000 employés syndiqués à la CSN de CPE. Elle sera d'abord présentée aux délégués. Ensuite, les membres devront se prononcer. La représentante du secteur CPE à la Fédération de la Santé et des Services sociaux CSN, Stéphanie Vachon, laisse entendre qu'il risque d'y avoir de la déception.
Est-ce que ce sera une entente historique qui va plaire à tout le monde? Ce sera pas du tout comme la dernière fois. La dernière assemblée, en 2021, j'avais des travailleuses qui pleuraient dans la salle et qui nous remerciaient du travail accompli, qui n'avaient jamais vu ça. C'est le contexte-là cette fois-ci, assurément pas.
Les syndiqués ont tenu dans les CPE jusqu'à présent 13 journées de grève. Après des années de silence, l'ancien maire de Montréal, Gérald Tremblay, a témoigné aujourd'hui au procès pour corruption de son ancien bras droit, Franck Zampino, et de ses 4 co-accusés. Il s'est défendu d'avoir fermé les yeux sur cette affaire qui a mis fin à sa vie politique, Fanny Sanson.
Gérald Tremblay n'a pas arrêté de le répéter.
Je n'ai jamais fait d'aveuglement volontaire. À toutes les fois qu'on m'a informé d'une situation, j'ai agi.
Après 3 mois de procès, le témoignage de l'ex-maire de Montréal était fortement attendu. Frank Zampino et ses 4 co-accusés auraient participé à un stratagème de collusion, de corruption et de financement politique dans les années 2000. Gérald Tremblay a affirmé avoir remis aux différentes autorités policières un document.
La police n'avait rien fait.
Exactement.
L'ancien maire a aussi déclaré qu'il ne savait pas que son bras droit de l'époque, Frank Zampino, avait des liens étroits avec le maniaque déchu de la construction, Tony Accurso. Le système de collusion aurait permis au parti de Gérald Tremblay de récolter une ristourne de 3%, ce que l'ex-maire réfute.
Allez, c'est une bonne question, j'ai posé la question.
Le témoignage de Gérald Tremblay doit reprendre mercredi matin au Palais de justice de Montréal. Fanny Sanson pour Cogeco Nouvelles.
Et soulignons en terminant que la Société de l'assurance automobile indique qu'une panne informatique affecte en ce moment les outils utilisés par ses préposés, certains de ses services en ligne. La SAAC dit travailler à rétablir la situation. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. 40% de risque d'averse ce soir, cette nuit, 13 degrés comme maximum pour Montréal. 20 demain, 40% pour les risques de pluie. Ensuite, des nuages jeudi 11, 12 vendredi, des nuages et retour du soleil pour samedi. Gatineau, 13 et 15, averse et orage. Sherbrooke, 14 et 18, 40% pour les risques. Trois-Rivières, 15 et 18, même pourcentage. Tout comme à Québec, minimum 13, maximum 17 demain.
Cogeco Nouvelles.
Qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent.
CFIX FM 93.
Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93. CFIX.
On fait le point sur l'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 17h.
18h05, il fait présentement 24 degrés à Montréal. Le ciel est généralement nuageux. Ce sera la même chose ce soir et cette nuit avec 40% de probabilité d'averse, un minimum de 13. Demain, des nuages également, 40% cette fois-ci de probabilité d'averse. Le matin et tôt en après-midi, un maximum de 20. Ce sera plus frais jeudi et vendredi, des maximums de 10 et 13 degrés, mais retour du beau temps et de la chaleur pour la fin de semaine. Dans une quinzaine de minutes, Mario Langlois sera là. On va revenir sur les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, dont ce match a plusieurs rebondissements hier entre les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto. Ce soir, il y a une autre équipe canadienne aussi qui entre en action, les Oilers d'Edmonton qui affrontent les Knights de Vegas. Mais pour l'instant, j'accueille avec plaisir le columniste de la section des arts de la presse, Marc Cassévy. Salut Marc.
Salut Philippe.
Marc, je suis content de te retrouver et je continue de te lire avec beaucoup d'intérêt. Et il y a un de tes papiers qui m'a vraiment fasciné dans les derniers jours. C'est un papier à propos de Ted Lasso. Ted Lasso, il y a des gens certainement qui entendent le nom et qui le connaissent très bien parce que c'est un personnage de fiction dans une série qui est sur Apple TV.
Oui.
Voilà, exactement. Un Américain, coach de football américain qui se retrouve en Angleterre et qui va diriger une équipe de soccer. Et c'est très drôle et c'est très bien fait.
Et t'as regardé ça?
Oui, j'ai regardé. Je pense que j'ai regardé les deux premières séries. J'ai tellement ri et j'ai tellement trouvé ça bon.
Ça ne m'étonne pas. Ouais.
Raconte-nous pourquoi Ted Lasso il est devenu un tel personnage d'anthologie.
Ben, il y a le contexte d'abord. Ted Lasso s'est sorti sur Apple TV pendant la pandémie. Moi, c'est un personnage que je connaissais déjà parce que NBC, à l'époque, NBC Sports, pendant des pauses de matchs sportifs, ce personnage qui était incarné par Jason Sudeikis, qui est un ancien de Saturday Night Live, il a créé ce coach donc de football américain qui se retrouve à diriger une équipe professionnelle là, de première ligue en Angleterre. Et donc, il y avait des petites capsule de 4-5 minutes
avant la série.
Donc moi, je le connaissais. Et donc, quand on a annoncé cette série, j'ai regardé ça à Apple TV avec mes garçons, fans de foot, tout ça, en me disant, c'est le fun, c'est pour nous, mais c'est pas un truc grand public. Et puis, étonnamment, c'est devenu un phénomène. La critique a adoré ça. Ça a gagné plein de prix aux Emmys. Le public a suivi. Ils ont fait 3 saisons. Et puis là, il y a eu tellement, en fait, de pression, je pense, des fans, qu'il y aura une 4e saison, alors que on avait bouclé la boucle, il était retourné aux États-Unis. Là, il va revenir, éventuellement, probablement l'année prochaine, pour diriger une équipe féminine. Je trouve que c'est une bonne idée, dans le contexte. Mais Ted Lasso, donc, j'en parlais dans la presse hier, parce que c'est tellement un phénomène qu'à l'Université Dalhousie, à Halifax, en kinésiologie, on a décidé d'offrir un cours sur Ted Lasso. Donc, c'est carrément, ça s'appelle leçon, attends, je retrouve, en anglais, c'est Life Lessons from Ted Lasso, le coaching et la vie, les leçons de Ted Lasso. Donc, ça va être offert aux étudiants. C'est ouvert à tous les étudiants, pas seulement en kinésiologie, parce que je pense que ça va avoir pas mal de succès.
Bon, oui, parce qu'il y a des leçons de vie avec Ted Lasso.
Oui, absolument. C'est-à-dire que Ted Lasso, si vous le connaissez, vous savez que dans son vestiaire, il a affiché un carton qui est écrit, c'est écrit « Believe », »,« Croyez », et donc il croit en ses joueurs. C'est quelqu'un, donc c'est une comédie légère, je vous le disais, ça a marché pendant la pandémie, parce que c'était un peu, Michel Boisvert en a regardé un peu, on se disait hors d'onde tantôt, c'est un peu tarte à la crème. Oui, c'est tout ce côté un peu bon sentiment, bienveillant. Lui débarque là, il est embauché. Les gens qui n'ont pas suivi se demandent pourquoi il embauche un coach de football par une propriétaire qui veut que l'équipe coule parce qu'elle elle vient d'hériter de l'équipe de son ex puis elle veut que l'équipe soit reléguée en deuxième
division.
Donc,
elle va choisir le pire coach.
Le gars qui connaît rien au soccer, qui n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est un motivateur hors pair. C'est un player's coach, comme on dit. Il a cette connexion avec ses joueurs. Il croit en eux. Il sait comment, avec de l'empathie, créer cet esprit collectif. Et donc, c'est ces leçons-là, je pense, qu'à l'Université Dalhousie, j'ai parlé à la professeure Laurie Diturbit, qui est professeure en kinésiologie là-bas, qui m'a dit, c'est ça, c'est ses leçons de psychologie du sport. Elle est prof en kinésiologie, mais spécialisée dans la psychologie du sport, notamment chez les athlètes de pointe, est allée aux Jeux olympiques de Paris. Donc, c'est tout l'état d'esprit de Ted Lasso, qu'elle veut enseigner à des futurs coachs, à des gens qui sont dans le sport, parce que le sport, c'est pas juste la performance physique, c'est aussi toute la psychologie, évidemment, qui est autour de ça.
Ah ouais, puis il y a des moments absolument extraordinaires, notamment dans la première saison, là, parce qu'il y a un journaliste très critique aussi, oui, qui suit ses activités, puis qui dit, je vais avoir sa tête avant longtemps.
Oui, oui, l'intellectuel, je me reconnaissais un peu.
Oui, c'est ça, c'est ça, c'est long, pour The Independent, d'ailleurs, qui est le quotidien plus...
de référence, ouais, voilà, à Londres, ouais, c'est ça.
Voilà, et puis lui aussi va tomber sous le charme de Ted Lasso à sa propre surprise.
Oui, tout le monde tombe sous le charme de ce gars-là, qui est un petit peu bonasse, qui est un peu... bon, il y va de manière un peu naïve, un peu candide dans tout ça. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi dans Ted Lasso, puisqu'on découvre au fil des saisons, il y a 3 saisons, donc si ça vous intéresse sur Apple TV, c'est qu'on va dans la psychologie aussi de ce coach qui souffre d'anxiété sévère, qui pendant des matchs, par ses moyens, c'est pas, et qui va finir par en parler aussi.
Qu'une histoire personnelle aussi, trouble.
Oui, absolument. Et toutes ces couches-là qui sont un peu plus sombres vont finir par ressurgir dans la série. Donc, c'est plus que juste ce petit bonbon acidulé qu'on pense au départ. C'est plus que juste la tarte à la crème. J'aurais envie de dire à Michel Boisvert, faut suivre un peu peut-être la 3e saison, ou en tout cas, déjà dans la 2e, je pense qu'il y a ces éléments-là qui font que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire au départ.
Et puis, bon, il y a évidemment tout ce truc sur l'Américain qui débarque à Londres,
qui
connaît pas les codes et puis qui va faire un paquet de gaffes. Il refuse de boire du thé, notamment, de mémoire.
À 4 heures.
Ouais, c'est ça. Et ça passe mal, mais c'est toutes sortes de petits clins d'œil.
Oui, il y a toutes sortes de blagues qui sont à la fois, et je dirais, assez fort pour lui, ou tu sais, conçu pour elle, là, comme on disait, les pubs d'un désodorisant des années 80. Enfin, il y a des petites blagues qui sont nichées pour des fans de soccer, par exemple. Il y a une équipe en Angleterre qui s'appelle Sheffield Wednesday, c'est le nom de l'équipe. Puis là, il y a une blague sur, mais on joue pas mercredi, on joue samedi. Oui, mais c'est contre Sheffield Wednesday. Ben oui, mais mercredi. Ce genre de blagues un peu, boboche, mais très drôle, avec des jeux de mots qu'apprécieront des gens comme notre ancien collègue Alain de Repentigny, qui aime ce genre de jeu de mots. Des choses de ce type-là, mais à la fois aussi une trame qui intéresse. Toi, j'ai un ami, François Lévesque, qui travaille au Devoir, pas du tout intéressé par le sport, en tout cas pas intéressé par le soccer. Il a adoré cette série. Il dit, c'est parfaitement fait, ça se boucle parfaitement en 3 saisons. Il la regarde et la re-regarde. Donc, ça a vraiment un attrait qui est beaucoup plus large que ce que j'imaginais, même moi-même au départ.
OK, alors si vous voulez rire et vous amuser, puis avec des épisodes songés aussi, c'est vraiment une série absolument excellente. Ted Lasso, déjà 3 séries sur Apple TV. OK, je vais te poser une question, puis je suis pas sûr que tu apprécies l'autre série. Je sais pas, en fait, je l'ignore, dont je vais te parler, mais j'y vois un point commun, c'est-à-dire de l'Américain ou l'Américaine qui s'en va en pays étranger, qui fait des faux pas. Puis ça, c'est un gros succès aux États-Unis. Alors, Ted Lasso, oui, mais Emily in Paris, c'est pas mal la même dynamique aussi. Cette jeune femme qui arrive toute entichée des réseaux sociaux puis qui s'en va travailler dans une agence de pub à Paris. Mais c'est encore une fois, c'est l'Américaine qui débarque en Europe puis qui va faire des gaffes, mais qui finalement va finir par être appréciée des gens.
Oui, mais pas de tous, hein, parce que sa patronne, elle va rester un peu insensible à son charme. Oui, c'est vrai que c'est ce côté un peu American in Paris, l'Américain à Londres, là, ce côté-là un peu. Puis qu'on peut voir au-delà de la surface de la personne qui a l'air peut-être un peu superficielle, quoi qu'elle. C'est juste qu'elle est moderne aussi. C'est beaucoup une critique de la France et des codes très traditionnels. On bouge pas, on fait les choses à notre manière depuis des siècles et des siècles. Puis elle a dit, on pourrait pas brasser un peu les cartes. C'est, de ce point de vue-là, c'est un peu différent. Mais c'est aussi une série bonbon, facile à regarder, tout ça, qui a fait des modes, hein. Tu sais, tu te promènes à Paris, puis il y a des bérets, je pense que c'est rouge, son béret, là, ça se vend partout. Puis
il y a des tours guidées aussi.
Et oui, il y a des tours guidées. Et on voit les jeunes Américaines parce qu'elles ont leur béret. Elles vont dans les endroits où ça a été tourné. C'est drôle, quand même.
Ouais. Alors, des belles séries, quand même, qu'on peut écouter. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Salut, c'était Marc Cassivi, journaliste à la presse. Au retour, Mario Langlois est là.
Retour de l'Est avec Pierre Michaud et François Dumas. comme gars qui connaît beaucoup la chef politique.
De parti.
Et qui est maintenant chroniqueur politique. Mettons, les derniers jours avant le vote final, est-ce que c'est un peu comme la finale, une finale à la Coupe Stanley pour un amateur de hockey?
Oui, c'est exactement ça.
Qui irait par les cheveux, mais honnêtement, tu sais, go Habs go, ça fait partie de notre culture. Là.
Ouais, mais aller Montréal, ça fait le travail, puis je me demande pourquoi qu'on le dirait en anglais.
Et là, on était rendu à combien, Pierre?
3290, et c'est très intéressant, sur la page de la ruche.
Et il y a eu plusieurs aventures aussi, sortant des bars sur la Grande Allée, mais j'en dis pas plus, parce que j'ai eu des potins privilégiés, parce que je suis un gars de Québec.
Tu réécouteras l'entrevue, parce que François a fait une bonne blague en disant que